Bien le bonjour tout le monde, bienvenue à Sortie de zone, épisode 43 ce lundi 9 mars, retour de relâche pour bien des familles québécoises. Ici Mario Langlois, en compagnie aujourd'hui de Philippe Quentin. Bonjour Philippe.
Salut Mario.
Martin McGuire. Salut Martin. Ainsi que Simon-Olivier Laurent. Salut Simon-Olivier.
Salut Mario.
Comment allez-vous messieurs?
Oh bien.
En pleine forme, une journée magnifique aujourd'hui.
En plus de ça.
Malgré tout ce qui se passe dans le monde, ça c'est pas mal plus inquiétant.
Ça commence à sentir le printemps, même si on se demande si ça va avoir l'air du printemps à Montréal. Avec l'équipe de hockey.
Ben, ça commence à être un printemps. On commence à s'habituer à ces printemps sans hockey, des séries, malheureusement. Puis je le dis pas pour être négatif, mais veut pas. Il y a un gros vide, effectivement, un gros vide dans le marché. En espérant que nos autres équipes sauront prendre le relais. L'impact d'un début de saison intéressant avec ces deux tableaux parallèles. Pas subi de défaite encore. On n'est pas au niveau d'engouement du Canadien, on s'entend. Mais il reste qu'on va prendre ce qui passe, hein, les gars?
Tout à fait.
On va prendre ce qui passe. Commençons peut-être tout doucement avec l'actualité qui nourrit ce début de semaine avant de revenir sur des thèmes plus majeurs. C'est-à-dire que le Canadien a procédé à quoi? Sa troisième photo d'équipe aujourd'hui? Je sais pas quelle
c'est. Deuxième. Toujours une photo d'équipe à la conclusion du camp d'entraînement, puis quand on remet la liste des 23 joueurs. Et ensuite, il y a une photo d'équipe qui suit la date limite des échanges quelques jours après, parce que parfois, il y a un peu de mouvement de personnel. Alors, on fait une deuxième photo d'équipe. Puis la deuxième photo d'équipe qu'on fait, on en fait une série aussi avec la famille, là, les conjointes, les enfants.
C'est plus lousse. C'est
effectivement.
C'est des photos à ramener à la maison pour
Mais c'est la dernière photo. C'est la dernière photo qu'on a prise ce matin qui va être installée à la porte du vestiaire. Pour ceux qui sont jamais allés au Centre Bell, là, à la porte de l'entrée du vestiaire, il y a la grande photo d'équipe. Et la photo qu'on a prise ce matin sera celle officielle de l'édition 2019-2020.
Donc, Carl Lazner va être sur cette photo-là.
Ouais.
Envers et contre tous.
Dave Louise va être sur la photo.
Envers et contre tous.
Alzner, Weiss.
Combien de joueurs ne seront plus là sur la photo d'équipe de fin de camp d'entraînement?
Moi, je pense 8 à 9.
8 à 9.
8 à 9. Facile, 8 à 9 là, qui seront plus là l'an prochain à la conclusion du camp, j'ai bien l'impression.
Veux pas, puis c'est un signe des temps, ce n'est plus la même chose que les prises de photos d'équipe d'une certaine époque où ton équipe peut rester la même. Ben, c'est sûr que quand t'as une bonne équipe, il y a moins de changements. Ouais. Et j'imagine que le jour où on va revivre ça, ben, ça va être un peu plus stable. Ça nous permet, puis gênez-vous pas de rajouter des commentaires là-dessus sur ce que ça vous envoie comme message de constater qui est là, qui n'est pas là sur la photo d'équipe, de parler aussi puisque, ce matin, de l'accès au vestiaire. Parce qu'avec, évidemment, la réalité qui frappe, celle du coronavirus, du COVID-19, il y a de nouvelles politiques qui sont appliqués. On sait pas trop si c'est une politique officielle. Gary Bettman n'est pas allé jusque-là, mais il y a des équipes qui ont commencé graduellement à l'appliquer. Le Canadien l'a fait aujourd'hui même.
Aujourd'hui, c'est une politique officielle qui touche les 31 équipes de la Ligue nationale. C'est une politique de prévention. En fin de semaine, il y avait les Rangers qui avaient décidé, nous autres, on fait ça. On a décidé qu'on faisait ça. Ça a déclenché beaucoup de discussions. Gary Bettman était en Floride samedi quand on a retiré le chandail de Roberto Luongo. Puis là, il y a eu un peu de fuite. Mais la Ligue, samedi, avait pas décidé ce qu'ils ont décidé ce matin. Moi, je pense qu'encore une fois, il y a des gros marchés de la Ligue nationale qui ont décidé.
Il l'avait pas imposé.
Il l'avait pas imposé.
Il avait suggéré, disons...
En fait, là, il était pas tranchant.
Non, non. L'NBA a fait la même annonce, mais c'est drôle, après le match des Lakers, c'est hier ou avant-hier, je vois tout le monde qui embarque sur l'espace de jeu puis qui fraternise avec les joueurs, mais pas les médias. Et d'ailleurs, je sais pas si on verra bien après si ça va revenir, mais je pense que tous les journalistes en Amérique et dans le monde se demandent si les équipes vont pas utiliser ça pour changer de façon de faire.
Je pense pas qu'il y a
des joueurs qui vont brailler si c'est le cas.
Mario, mais nos deux collègues là, sont des gars d'écrit. Moi, j'ai hâte de les entendre là-dessus, des gars qui parfois travaille sur ce qu'on appelle des bons vieux features, puis je veux les entendre, puis après ça j'ai ma petite idée.
Ben en fait c'est drôle que tu dises ça parce que donc la nouvelle, la fuite si on veut, est arrivée samedi après-midi alors que le Canadien était à Sunrise, et moi je l'ai lu, c'est ESPN puis TSN qui ont sorti en même temps. Je l'ai lu comme je revenais à mon hôtel pour passer quelques heures avant de retourner pour le match du soir, et on s'est même échangé des courriels avec mes collègues de la presse, et la première chose les courriels se sont croisés avant qu'on s'en parle de vive voix, c'était: on retournera jamais dans le vestiaire. Un coup que les équipes vont avoir réussi à nous en sortir, on pourra jamais
comme
retourner
les avions,
parce que c'est bien trop convenient pour eux, c'est bien trop pratique pour eux. Et après ça, en retournant à l'aréna des Panthers pour la soirée, tous les membres des autres médias avaient le même réflexe. On a tous eu la même réaction. Et je pense que c'est pas fortuit, justement. Je pense que ça va être une tendance lourde pour les prochaines années dans le sport professionnel.
La tentation va être très forte pour les organisations de dire, hey, vous êtes à l'extérieur du vestiaire, c'est parfait. Ça va leur permettre de contrôler encore davantage le message. message, parce qu'on sait très bien que on rend des joueurs disponibles. Autrement dit, si, par exemple, Simon, il y a le goût cette journée-là d'interviewer Shea Weber, ça se peut que Shea Weber ne soit pas rendu disponible, puis on va lui dire, tiens, regarde, ça va être n'importe Jeff Petrie qui va y aller, mais toi, ton idée, c'était pas de parler à Jeff Petrie cette journée-là, bien tant pis pour toi, tu sais, c'est comme ça que les organisations contrôlent, puis ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un joueur qui est un peu dans la baraque, qui joue moins bien et tout, ben généralement, ils sont pas disponibles cette journée-là. Exact. Celui qui va bien, lui, il est disponible, par exemple. Alors, c'est comme ça que, de façon insidieuse, les organisations contrôlent un peu l'information.
Ce que je dirais là-dessus, c'est que tranquillement, pas vite, là. Les organisations de la Ligue nationale, du moins les organisations de pointe, là, celles qu'on dit les plus riches, les plus suivies par les médias dans leurs marchés respectifs, parlaient de ça à voix basse depuis déjà quelques années.
Avant l'apparition du virus,
exactement.
Là, donc,
exact. Pour eux, là, ça aurait été préférable d'organiser ce qu'on appelle des zones mixtes, là, avec des paravents et qu'on puisse aller voir les joueurs-là en dehors du vestiaire, comme ça se fait dans la Ligue des champions au soccer, comme ça se fait en finale.
On a perdu l'habitude
en finale de conférence. Mais, tu sais, je dirais là-dessus que la Ligue nationale, et là je parle de Gary Bettman et Bill Daly et toute sa garde rapprochée, ces gens-là veulent pas fermer le vestiaire. Il y a un mouvement de résistance qui vient.
C'est la volonté des joueurs et des organisations.
Peut-être du Canadien, peut-être des Rangers, peut-être de Chicago. Ces grosses organisations-là qui ont, excusez l'expression, beaucoup de médias dans les pattes, là. C'est un peu comme ça qu'ils voient ça parfois, là. Mais la Ligue ne veut pas ça. Alors, moi, j'ai l'impression que ça sera pas aussi drastique que ça. Il va y avoir un bras de fer entre la haute direction de la Ligue et certaines organisations qui vont peut-être le vouloir, ça.
Mais on a posé la question, j'étais dans la mêlée de presse avec Gary Bettman samedi soir et on était trois à lui poser la question, est-ce que ça va être une mesure temporaire ou permanente? Et il a répété que c'était en réaction au coronavirus. Oui. Donc on pourra toujours lui remettre ça en pleine face si jamais ça change. Par ailleurs, juste pour que les gens comprennent bien la nature de notre travail, que ce soit écrit radio surtout, un peu moins la télé, ce que vous voyez les gens à la télé en fait, qui est quand on voit un joueur qui est interviewé avec tout le troupeau de médias autour, la mêlée de presse, c'est que ce soit dans Ocasio, de Suzuki, de Tatar, de Gallagher, c'est un élément du vestiaire, mais il n'y a pas que ça. Il y a des joueurs aux quatre coins du vestiaire un matin de pratique. Et par exemple, Martin ou moi ou des collègues du Journal de Montréal, de d'autres médias, peuvent aller voir un joueur individuellement et jaser. Parfois, ça donne même pas un texte ou une entrevue. Des fois, c'est juste pour prendre le pouls, voir ce matin-là comment ça se passe, avoir une idée pour un projet futur. Par exemple, c'est vraiment un tout petit exemple. Samedi matin, après l'entraînement matinal du Canadien, je savais que je voulais écrire sur Jake Evans pour lundi. Alors, je suis allé m'asseoir avec Jake Evans, ça a duré 2 minutes 30 parce que Evans n'est pas un gars très bavard de toute façon. Puis j'avais juste ce qu'il me fallait pour finir mon reportage de qui a été publié ce matin. Avec la nouvelle politique, si Evans sort devant le rideau, tout le troupeau va être autour et tout le monde va avoir le même matériel. Fait que c'est pas une bonne nouvelle pour la diversité des reportages.
Non, clairement pas.
Simon je le vis depuis déjà quelques années. Moi, l'affaire qui m'inquiète beaucoup là-dessus, même pendant la situation temporaire qui est liée au coronavirus, c'est qu'il y a des organisations, Mario, qui sont mal organisés, oui, et qui sont très mal organisés financièrement parlant. Ils ont pas beaucoup de moyens, ils ont pas beaucoup d'idées. Les gens qui sont là sont plus ou moins compétents. C'est ce que je crains, c'est qu'on va aller dans certaines villes, on va aller dans certains endroits, puis comme on dit chez nous, ça va être broche à foin. Puis ça va être bien difficile, même de vouloir avoir une clip sur l'arrivée du Canadien ou le jeu de puissance. Quelque chose de bien général, là, ça va être difficile à travailler parce qu'il y a des équipes qui sont pas prêtes pour ça, puis pas compétents, puis pas assez riches pour organiser, excuse l'expression, des set-ups qui ont de l'allure.
Je sais pas si c'est une question de nature philosophique, mais je la pose, les gars, juste peut-être pour amener une réflexion. Moi, j'ai l'impression, est-ce que pour les organisations sportives, les médias sont devenus un mal nécessaire? Avec l'avènement des médias sociaux, les organisations peuvent communiquer de la façon dont ils le veulent, peuvent tweeter, peuvent utiliser Facebook, peuvent utiliser Instagram, et ils le font généreusement. Tu sais, je dis pas que c'est la guerre entre les médias, mais on sait que les médias sont toujours le coupable facile dans un marché où ça va mal. C'est comme on veut s'en éloigner. Et je sais que, puis ça, je l'ai entendu de membres de l'organisation, c'est qu'eux autres, là, ils pensent qu'ils peuvent communiquer directement avec leurs fans sans les médias. Vous autres, comme membre des médias, vous sentez-vous pas ça?
Je le sens pas tout à fait comme ça. Cela dit, j'ai pas énormément d'expérience sur le beat, là. Fait que je parle pour le maigre échantillon que j'ai, mais tu sais, même le Canadien dont on dit qu'ils sont extrêmement contrôlants avec les les médias, oui, c'est très encadré, mais à travers notre travail, je sens qu'on a quand même beaucoup de liberté. Je pense pas qu'ils essaient de nous mettre les bâtons dans les roues.
Ben,
c'est sûr que des fois, il y a une zone grise. On voit pas Shea Weber très souvent, même si c'est le capitaine. On voit pas Carey Price très souvent, à part après les matchs. Fait que, tu sais, il y a des choses.
Comme on dit, Carey, c'est Carey.
Oui, Carey, c'est Carey. Mais, tu sais, il y a quand même, on a quand même un assez bon accès. Ouais. Je pense que le Canadien est vraiment pas en guerre avec nous. Puis, je pense pas que les gens aimeraient, les amateurs, dans le fond, de sport et de hockey. Je pense pas qu'ils se satisfont seulement de ce que le Canadien publie par l'entremise des réseaux.
La preuve de ça, c'est la date limite des transactions. Moi, je pense que ça, c'est la meilleure explication. À la date limite des transactions, là, vous allez me dire, certains sont des partenaires de la Ligue nationale, mais pas toutes. Là. Sportsnet est un partenaire d'affaires de la Ligue nationale, Rogers. RDS est un partenaire d'affaires du Canadien et TVA Sport de la Ligue nationale. Mais il y a TSN qui n'est plus du tout un partenaire officiel. Et ces gens-là, ces panélistes-là que nos auditeurs connaissent, là, ils sont aussi nourris par la machine, là. Et la Ligue a intérêt à ce que, quand il arrive une transaction, une minute et quart après, les McKenzie de ce monde obtiennent les détails.
Bien sûr.
Alors, c'est pour ça, moi, que ils sont pas là pour mettre des cadenas après leur porte. Sauf que les joueurs d'aujourd'hui, ils ne veulent plus beaucoup s'asseoir avec toi puis jaser un peu de la pluie puis du beau temps puis ces affaires-là, ça les intéresse plus. Ça, moi, j'ai découvert ça dans les années où j'ai pratiqué ce métier-là, entre la première saison et la 17e aujourd'hui, là. Puis je le dis pas de façon prétentieuse, c'est juste une grande photo, là, que j'ai, là. J'ai découvert que la pluie puis de beau temps, là, les joueurs veulent plus cette business-là avec nous, les médias. Ils veulent répondre aux questions. Quand les questions sont finies, ils veulent sortir de là, aller se faire sécher dans le char puis s'en aller, puis aller avec le chum derrière les murs. Ça, là, c'est vraiment ce que je sens, Mario. C'est pas les organisations qui veulent plus nous voir.
Certainement que tu touches une réalité.
Mais
là,
les athlètes d'aujourd'hui, là, puis j'ai fait brièvement.
Mais ils ont grandi aussi dans un environnement où ils côtoient des vétérans qui sont peut-être pas plus friands de la chose non plus. Là.
Non, puis oubliez pas qu'on est dans l'instantané aujourd'hui, hein. Puis ces jeunes-là sont dans l'instantané. Puis quand ils se présentent devant nous autres, sont dans l'instantané. C'est mets le sachet, mets l'eau, brasse, puis bye. C'est comme ça. Tu sais, il y a les recrues, tu sais, comme Nick Suzuki, ils vont faire attention pour pas froisser. Mais Nick Suzuki, dans 3 ans, là, je dis pas qu'il va devenir méchant puis pas gentil, là, mais lui aussi, il va être dans l'instantané. Ça va dire, pose ta question, je te donne ma réponse, puis après ça, ben... voilà.
Je reviens d'une semaine de relâche. J'ai continué de suivre à distance, peut-être pas avec la même vigilance que lorsqu'on est au travail, mais j'ai-tu manqué quelque chose, les gars, dans la dernière semaine? De même, il me semble qu'il y a pas mal d'affaires qui concernaient l'avenir d'un paquet de monde chez les Canadiens. Je sais pas si la relâche est un bon moment pour soupoudrer.
L'équipe a pas bien joué, Mario.
L'équipe a pas bien joué.
Le coach était pas de bonne humeur ce matin par rapport à ça.
Encore.
Puis on a jasé avec Marc Bergevin, Danny et moi, samedi soir au premier entracte. Et sur certaines questions de fond, je m'aperçois que les réponses sont évasives dans le sens que je suis pas sûr vraiment qu'on a des réponses. C'est pas qu'on veut pas les donner, mais je suis pas sûr qu'on a des réponses certaines choses précises. Je te dirais que c'est ça que t'as peut-être manqué cette semaine.
Si je regarde ça, puis je rejoins ce que tu dis, Martin, mais si on prend un moment puis on regarde ça juste comme d'un étage plus haut, moi, ce qui m'a fasciné là au cours des derniers jours, c'est l'opération marketing du Canadien.
C'est ça que j'ai senti à distance, Philippe.
Marc Bergevin était partout, accompagné, je pense, très souvent de Paul Wilson, le vice-président communication du Canadien.
Pas avec nous autres samedi soir, je tiens à le mentionner, mais ailleurs, oui, j'ai ce que j'ai entendu.
Bon, et là, donc, Bergevin a répondu aux questions. C'est très inhabituel. C'est la première fois que je vois ça, cette période-ci de l'année, multiplier les entrevues comme il le fait. Donc, on sent très bien le plan du Canadien pour dire, écoutez, il faut qu'on positionne le débat public en vue du bilan de fin de saison pour pas que ça soit trop épouvantable pour nous autres. Alors, on commence à donner des éléments de réponse. On essaie de mettre un discours plus positif. Mais tu sais, c'est pas très subtil non plus comme façon de procéder. Là.
Et dans les jours qui ont suivi sa conférence de presse, pourtant à Montréal, est-ce que c'était de la réparation un peu?
Il y avait un repositionnement qui s'est fait, ça c'est sûr. Là. Mais en même temps, dans le fond, dans la substance, Puis là, je critique pas mes collègues médias qui ont posé des questions.
On n'a rien appris.
On en a posé, Danny et moi, des questions samedi soir. Puis des fois, on a eu des petits bouts de réponse à réécouter 2-3 fois. On dit, ah, oh, il y a un élément là. Mais pas comme, tu sais, je veux dire...
Il n'y a pas de clip à nouvelles. Il n'y a pas de titre de fond de piste.
Ils veulent pas aller là. Ils veulent pas aller là. Puis vraiment, des réponses fermes, là. Je pense que eux-mêmes, ils en ont pas beaucoup. Aujourd'hui, le 9 mars, ils en ont pas beaucoup. Mm-hmm.
Mais je rejoins tout ce que vous dites, mais c'est par rapport à ce que tu disais, Mario.
Oui, j'ai-tu manqué quelque chose?
Toute cette semaine-là, de cette tournée médiatique-là de Marc Bergevin est une réponse, selon moi, directe à son rendez-vous manqué de la journée des transactions. Une conférence de presse, je le rappelle, extrêmement confuse, très touffue, Hélène. Il y avait des contradictions, ça allait dans plusieurs sens. Il y avait des espèces d'analogies un peu boiteuses, dont celle des dards sur le tableau, qui, je pense, va le suivre longtemps. Ça a commencé avec l'entrevue qu'il avait donnée à Mathias Brunet de la presse. C'était dans le journal de samedi, il y a 8 jours. Et là, après ça, c'était toute la semaine. À Boca Raton, il a rencontré RDS, il a rencontré TVA Sport. Au cours de la semaine, j'ai vu, pendant le week-end, en Floride, il a rencontré Dan Robertson de TSN Radio, ainsi que le 98.5. Il a fait sa tournée et il a essayé de replacer son message.
Son inhabituelle tournée, comme l'a précisé Philippe. Ça ne veut pas dire que ce n'était pas une bonne chose de la faire d'un point de vue.
Je pense que c'était nécessaire parce que je pense que justement le point de presse a suscité beaucoup de questionnements et beaucoup de colère dans le sens de dire où est-ce qu'on s'en va avec ça.
Quand le mot-clé qui ressort de ce point de presse-là, c'est la chance. Qui explique le repêchage, c'est de la chance.
Ça, il fallait qu'il change ça.
C'est terrible, là.
Non, mais c'est parce que ça déprécie même ton personnel.
Ben oui, tu sais, à la limite, prenons la liste de la Ligue nationale.
Sœur Angèle au recrutement, allume des lampions. Mais les gars, c'est drôle parce que je regardais ça de loin, mais c'est dur de décrocher complètement, vous le savez, puis il me venait des réflexions, mais là, fallait que je les garde pour moi, évidemment. Et je me suis posé une question. Marc Bergevin n'a pas la réponse au problème de son équipe à domicile. Tu sais, l'affiche de l'équipe à domicile, qui est nettement déficitaire, on a l'impression que parfois, que l'équipe se comporte mieux sur la route. Oui. Et je vous lance ça comme ça, c'est un peu une boutade, mais n'est-ce pas le reflet d'une réalité? Trouvez pas que le DG aussi est plus à l'aise pour parler sur la route? Parce que dans le fin fond, la dernière fois qu'il a parlé à la maison, c'est son point de presse, puis ça a pris 2 semaines pour le corriger. Puis que je sache, toutes les fois qu'il a parlé cette année, c'est sur la route. Donc, quand t'es obligé et quand parce que ça ressemble à ça, mais ça déteint peut-être sur une équipe parce que ça veut peut-être dire qu'il suffoque dans son marché ce que Jeff Molson ne détecte pas, puis qu'à un moment donné, là où il commence à respirer, c'est quand il en sort de son marché. Puis ça veut pas dire que t'es devenu incompétent quand t'agis de même. Mais à un moment donné, quand l'oxygène se rend plus à ton cerveau, la réflexion n'est pas la même. Voilà.
Sais-tu où il est pas à l'aise? Il est pas à l'aise derrière un lutrin avec un micro, puis avec 60 journalistes, puis 8 caméras qui roulent en direct. Ça, je pense qu'il est pas à l'aise.
Ça doit pas être facile non plus.
Je le blâme pas, je serais pas meilleur que lui.
Jase là, puis je t'écoute, puis il m'est venu des idées, tu sais.
J'aime ça.
Moi, je pense qu'avec ce qu'on a vécu là, ça se peut même que le post-mortem soit différent cette année. Ça se peut même qu'ils pensent à une autre façon de faire le post-mortem. Je suis convaincu parce que, tu sais, là, quand il est là, il est assis, il te regarde dans les yeux, je l'ai interviewé une couple de fois, même chose Mario, quand il te regarde dans les yeux, là, il y a une connexion. Tu sais, il est capable d'avoir...
Il répond pas plus.
Non, mais il y a une connexion.
Marc est capable d'établir un contact.
Il y a quelque chose. Mais c'est sûr là que quand il n'aura pas à moitié dormi là, puis qu'il va avoir voyagé partout... Je pense pas qu'ils vont le tirer à nouveau comme ils ont fait à la date limite des échanges.
Mais comment tu vois ça, Martin?
Ben, moi, je pense que... Écoute, je peux pas penser pour eux, puis ça m'intéresse pas de penser pour eux,
mais je pense qu'on est rendu là, on dirait des fois.
Je pense qu'on va essayer de faire en sorte que Marc Bergevin puisse se retrouver dans une situation où il sera plus pris dans un piège à dire n'importe quoi. Comprenez, là?
Quoi, il va multiplier les entrevues individuelles? Ou?
Ça pourrait être ça. Est-ce que ça va se faire par secteur? Est-ce qu'il va accepter de dire, OK, ben là, je prends les gars de la presse écrite, je peux leur donner quelques instants, je prends les gars de l'électronique, je sais pas à quoi ils vont penser, mais je vous le dis, le 5-6 avril, là, si on le fait de la même façon, ça va ressembler à ce que c'était le 24 février dernier à la date limite des échanges pour lui là.
Je suis plus ou moins d'accord dans la mesure où pour le bilan du début avril, visiblement le lundi 7, je dirais, ou le lundi 6, il va avoir eu le temps de se préparer alors que le jour de la date limite des échanges, il n'avait pas eu le temps de se préparer. C'est un visiblement, bon point on en a parlé ici, il était fatigué.
C'est
il était
un
pas
bon
dans,
point.
Tu sais, à la fin du point de presse, il a même dit qu'il avait mal dans le dos. Il était vraiment pas dans les bonnes dispositions. Et là, une excellente préparation pour son 6 avril, c'est la tournée de la dernière semaine où justement tout le monde a présentement l'information sur le plan de Bergevin. On peut être pour, on peut être contre, on peut trouver qu'il est cohérent ou pas.
Mais l'info
mais
est là.
Il est là.
C'est ça.
Alors là, il y a une espèce de base de travail. Je pense que c'est Philippe qui l'a souligné en début de balado, de dire, ben, il prépare son bilan déjà. Alors, tu sais, il n'y aura pas tellement de choses à rajouter sur, tu sais, par exemple, lui, il dit qu'un des facteurs d'insuccès cette année, c'est la performance de l'équipe à domicile. Les bras ne tomberont pas à terre quand il va nous dire ça le 6 avril. Là.
Non, mais tu sais, des fois, je sais pas ce que Philippe en pense, mais ça, on a envie d'entendre plus, tu sais, parce que, ben oui, c'est clair, là. Si tu prends des notes de presse, tu t'en vas sur Internet, puis l'équipe en arrache à domicile, c'est bien facile, là, c'est écrit là. Mais qu'est-ce qui fait que l'équipe
on
en arrache?
On sait pas pourquoi. C'est pour ça que je soulève la question.
C'est ça.
Et y a-tu quelqu'un qui est à l'aise à domicile dans cette organisation-là? Tu sais, je veux dire, le DG, il est-il à l'aise
mais
à domicile?
Pourtant, ils ont même pas été hués une seule fois cet hiver.
Oh. Ils sont applaudis à tout rond après des saisons de schnout, puis je cite toujours Carey Price en exemple. Écoute, tu peux-tu avoir quelqu'un qui incarnait plus l'attitude de l'équipe qui arrive puis qui se fait ovationner puis finalement gars Carey on t'aime pareil mais je veux dire il sera temps qu'ils comprennent
moi je pense que peu importe là qu'il y en ait un bilan qu'il y en ait pas qu'il fasse en petit groupe devant tout le monde là je pense qu'au fond c'est le discours ne passe plus chez beaucoup d'amateurs et pourquoi ce discours ne
ça
passe plus
gestes,
ouais le discours ne passe plus parce que tu sais c'est toujours des excuses évidemment c'est toujours ça puis c'est toujours des comparaisons avec des équipes qui ne fonctionnent pas. Moi, je pense que les gens sont plus capables d'entendre ça. Tu sais, question sur le repêchage. Ah, ben, telle équipe, ça marche pas non plus. Je peux t'en donner si c'est aussi pire que nous autres. Hey, c'est pas une façon de voir les choses. Voyez-vous ça, nous autres, là, si on rencontrait nos patrons, là, dans les médias, là, puis patron disait, ben, est-ce que tu fais plus ou moins à l'aise? Puis la seule réponse, c'est, ouais, mais j'en écoute un autre à l'autre poste. Il est pas meilleur que moi. Tu sais, voyons, c'est pas une réponse. Tu sais, moi, je regarde ça. J'ai occupé un poste de vice-président à la presse pendant des années. Je regarde les réponses que donne Marc Bergevin. Si j'avais donné ces réponses-là à mon patron, quand à la fin de l'année, on faisait le bilan de l'année, tu sais, pourquoi, tu sais, telle section, puis je lui avais dit, ben oui, mais regarde, il y a d'autres journaux qui sont bien moins bons. C'est pas des réponses que tu peux donner. Puis ça, les gens, ils viennent, ils sont tannés d'entendre ça. Ouais. Alors, peu importe la formule, peu importe comment ils abrient ça, je pense pas qu'ils vont pouvoir aller plus loin.
Ton texte intitulé « L'univers parallèle »,
L'univers parallèle du CH.
Ça me fait penser à ce que je disais, les gars, dans d'autres conversations. Je sais pas si vous y avez tous pris part, mais quand je disais que la technique qu'on emploie actuellement, c'est on se regroupe, on met un bouclier, on mange les claques à la gueule, puis on attend comme année d'avoir un autre visage à présenter. Mais je sais pas combien d'années encore ils vont pouvoir faire ça sans avoir de résultats, puis invoquer les mêmes arguments de défense.
Ben, moi,
ça a une limite, parce que quand je disais j'ai-tu manqué quelque chose dans la semaine de relâche, j'ai appris que Claude Julien revenait l'an prochain, j'ai appris qu'il y aurait aucun changement dans cette organisation-là. Finalement, vogue la galère.
Peut-être pas. Mais je reprends ce que Philippe vient de dire. Le public n'est plus prêt à les entendre, ces arguments-là. En fait, savez-vous pourquoi le public voulait un changement d'entraîneur? Moi, je pense que c'était pas justifié de changer le coach. Puis ça avait pas d'affaire à arriver. Mais le public est tellement...
Là, tu parles de quoi, de Terrien?
Oui, de Julien. De Julien.
OK, tu comprends?
C'était pas justifié, puis ça avait pas d'affaire à arriver. Mais le public aime plus les réponses qu'on leur donne.
Ben, c'est ton opinion.
Alors, il aurait voulu... Et il aurait voulu un coup d'éclat, il aurait voulu quelque chose. Mais les changements, là, c'est ça à glace que ça marche pas. C'est dans le repêchage, c'est dans le développement. Et lors de l'entrevue qu'on a faite avec lui en fin de semaine, on lui a demandé si c'était pas curieux que, de temps en temps, il y a pas une recrue qui pousse un vétéran à la porte, qui pousse un vétéran en vacances ou dans une autre équipe ou à la retraite. Puis il n'y en a pas eu de ça chez le Canadien. Alors, tu sais, je pense que le public achète plus les excuses. Le public veut plus ça. Ils veulent juste avoir une bonne équipe. Ils veulent avoir du hockey au printemps.
Mais il y a aussi, puis je suis 100% d'accord avec toi, mais dans l'histoire de demander un changement, c'est que c'est comme si dans toutes les entrevues, dans sa fameuse tournée qui avait, c'était un peu avant sa tournée, mais disons son point de presse d'après la date limite des transactions plus l'entrevue qu'il avait donné, la longue entrevue qu'il avait donnée à Mathias, il faisait le tour de tout ce qu'il n'était pas capable de changer, c'est-à-dire le recrutement c'est difficile, repêcher c'est difficile, échanger c'est difficile, les agents libres c'est difficile, tout est difficile, mais il y avait ce qui semblait possible pour les amateurs de changer, c'était l'entraîneur, et tout à coup il arrivait et disait ah puis by the way on garde l'entraîneur, fait que pour l'amateur moyen que puis je le dis sans aucune condescendance, qu'est-ce qui reste après ça,
puis parce que les autres affaires tu peux échanger. changer. Quand exact. T'es bon, tu peux
exact.
Les changer.
Je suis en train de dire qu'il faut que Julien s'en aille. Je pense pas moi non plus que c'est de sa faute cette saison-là, mais c'était la possibilité de changement évident et tout à coup, il est plus là.
Tu parles beaucoup de stabilité dans ton texte de ce matin. On sait pas où va mener la stabilité que préconise Jeff Motion chez le Canadien, mais est-ce là une influence du monde des affaires duquel il est issu? Parce qu'on était habitués, nous, à ce que, contrairement au monde des affaires, il y en a eu des compagnies qui ont résisté à des vagues de protestations dans l'histoire du Québec, puis c'était le même président du CA pendant tant d'années, Caisse de dépôt, Namath, Bombardier. Tu sais, il y a bien des compagnies qui ont été ébranlées par l'opinion publique sans nécessairement procéder à des remaniements. Puis je me demande, quand je regarde aller Jeff Molson, s'il s'inspire pas de ça en disant, regarde, de toute façon, c'est nous autres, on est dans notre bulle, on va manger ta loche, puis en temps et lieu, ben, un jour, ça va être meilleur, puis là, on leur dira, ben voyez, puis il y aura quelqu'un de notre communauté qui dira, ah ben là, il faut donner le crédit à Jeff Molson parce qu'il a été patient.
C'est t'sais, ça, ben tout à fait, puis tu sais, quand tu regardes un peu, quand tu retournes en arrière, puis tu relis les articles de l'époque, quand il est devenu président du Canadien, parce que souvenons-nous, il est devenu d'abord copropriétaire, puis un an après, il a pris le poste de Pierre Boivin en plus, il n'avait que ce mot-là à la bouche. Tu peux retrouver là, des dizaines d'articles où c'est écrit, tu sais, Jeff Molson veut de la stabilité, stabilité dans tous les secteurs de l'organisation, ça revient constamment, ça devient, tu sais, comme un leitmotiv. C'est la clé. La clé pour le succès, c'est la stabilité. Mais dans le sport professionnel, il y a bien des recettes pour gagner. Puis la stabilité, oui, c'en est une pour certaines organisations. Mais c'est ça. Mais là, c'est la question que je posais ce matin dans mon papier. À quel moment la stabilité, ça devient de la complaisance? Puis là, au lieu de, c'est plus de la stabilité, c'est bon, on accepte les choses comme elles sont.
Moi, je pense que on est ce qu'on est dans la vie, hein. Et la formation de M. Molson, c'est un homme de marketing. Jeff Molson a étudié le marketing. Et il est sensible à ça. Puis je me souviens d'avoir eu des conversations parfois avec lui qui est de l'industrie de la bière et tout ça. Puis il me parlait de trucs, là. Puis il me parlait avec cœur, là, sur des... c'est un homme de marketing. En ce sens-là, je dis, quand la marque canadien va être affectée, il va être sensible.
Ben, elle l'est un peu.
Elle commence à l'être.
Du même sûr, je dis que on sent que le public peut faire preuve de clémence, continuer à applaudir ses héros. Cela dit, je ne crois pas non plus que, mettons, sur 21 000 personnes au Centre Bell, mettons qu'il y en a 700 qui un soir sont mécontents, qui huent. Je dis pas que c'est un échantillon scientifique de l'opinion du grand public qui regarde partout. Je pense que quand on prend la peine de se rendre au Centre Bell, on a plus envie d'applaudir que de huer, là, sinon tu y vas pas. Fait que je pense pas que c'est un échantillon scientifique. On n'aurait pas les mêmes réponses que 95% du monde sont contents puis vont applaudir si on faisait un sondage à la grandeur du Québec.
Non, mais
je serais bien étonné de ça. Là.
Mais des fois, la marque, elle peut être affectée pareil, Mario.
Ben oui, mais c'est ça que je te dis.
Elle peut devenir moins prestigieuse.
C'est exactement ça que je dis, c'est que t'aurais pas le reflet, autrement dit, l'opinion publique dans un sondage, ça serait moins positif que la quantité d'applaudissements t'entends au Centre Bell, parce que les gens qui prennent la peine de se déplacer, ils veulent plus applaudir que
cuer, c'est ça. Absolument.
Mais j'ai l'impression que ce qui menace plus cette marque-là, c'est l'effritement graduel. C'est-à-dire que, tu sais, peut-être que on n'entend pas 20 000 personnes huer le Canadien, parce que de toute façon, on s'entend, tu sais, il reste quoi, 5 matchs locaux présentement. Tu sais, comme tu l'as dit, les gens veulent aller au Centre Bell, veulent passer un bon moment.
Tant qu'à sortir.
Le fait est que le Canadien peut gagner des matchs.
Il travaille fort.
C'est pas la pire équipe de la Ligue nationale, là.
Il travaille fort.
C'est pas les Red Wings de Détroit, là. Sauf que c'est ça, c'est cet effritement graduel-là que je pense est beaucoup plus insidieux, parce que un moment donné, le mur, il va arriver. Et peut-être que le Canadien n'est pas rendu là, mais cet effritement-là, il peut pas le laisser aller indéfiniment.
Voilà.
Parce qu'éventuellement,
ils se disent que quand ils vont se remettre à gagner, que comme par magie, tout va revenir, ils n'ont peut-être pas tort.
Ils n'ont peut-être pas tort
parce que je peux te dire qu'au tournant du millénaire, ils ont pas vécu. Ben, ils ont vécu quelque chose de semblable. Ça a été moins long. Ça a été 3 saisons d'exclusion des séries éliminatoires. On donnait des billets. Tu sais, il y a eu une réalité maintenant que ça n'était pas plein. Et
moi,
ils sont pas devenus une équipe championne.
Génération.
Mais non, mais je dis qu'ils se fient là-dessus, que le monde est tellement passionné que quand ça va redevenir positif, ça va continuer de se faire comme des petits pains chauds.
Il y a un contexte qui est différent aussi pour les problèmes du début des années 2000. C'est que il y a un contexte qui est économique. C'est-à-dire qu'économique dans le sens que le Canadien avait pas beaucoup d'argent. On était avant l'ère du plafond salarial. Les Molson n'avaient pas le club à ce moment-là. C'était avant que l'équipe soit acquise par George Gillette. Alors, il n'y avait pas d'argent dans les coffres. Le Canadien se débarrassait de ses bons joueurs parce qu'il n'y avait pas d'argent pour les payer. Il y avait eu des blessés. Il y a eu des trucs circonstanciels.
Oui.
Alors, c'est tout un contexte différent. Et je pense que les gens sont restés fidèles, même s'il y avait moins de monde au Centre Bell. Mais il y avait quelque chose de je dirais, structurel, circonstanciel à ce moment-là. Mm-hmm. Conjecturel, voilà, c'est ce que je cherchais tantôt. Alors que maintenant, ben, avec le plafond salarial, toutes les équipes sont présumées à être compétitives. Le Canadien est une équipe extrêmement riche, qui est extrêmement profitable.
Mais qui dépense pas à la limite du plafond. Là.
Exactement. Ça, donc, le Canadien est présumé avoir tous les outils nécessaires pour réussir et il réussit pas. Alors, c'est ça qui est, c'est là qu'il y a un grand problème, la différence avec il y a 20 ans.
Puis moi, je ferai attention à la nouvelle génération. J'en fais pas partie, là. Je vais avoir bientôt 51 ans. Je la connais pas complètement, cette nouvelle génération-là. Je la vois à travers mes filles, à travers leur entourage. Moi, je ferais bien attention. Tu sais, l'interrupteur, comme t'as dit tout à l'heure, là, quand on va se mettre à gagner, ça va rentrer tout seul parce que je vous parlais des histoires d'instantané tantôt, là. La nouvelle génération est une génération instantanée. Mm-hmm. Et quand elle se trouve d'autres choses à faire et quand elle se trouve d'autres intérêts, elle tourne les talons assez vite. Et ça, moi, comme entreprise, dans le divertissement, j'aurais un peu peur de ça.
Je racontais quelque chose. Samedi matin, après l'entraînement du Canadien, on interview les joueurs sur différents sujets, notamment sur la mort d'Henri Richard. Oui. Brendan Gallagher nous raconte qu'il mesure pleinement c'est qui Henri Richard parce qu'il y a plusieurs événements, mais il nous disait que quand Jean Béliveau est décédé, c'était seulement sa deuxième saison avec le Canadien, et qu'en plus le Canadien était sur la route le soir où M. Béliveau est décédé, et qu'à ce moment-là, il mesurait pas pleinement ce que ça représentait, la mort de Jean Béliveau, parce qu'il mesurait pas l'ampleur du personnage.
Et il l'a vu en chapelle ardente après et tout ça.
Là. Exactement. Et là, maintenant, il a vécu ça, tout ça. Alors, dites-vous qu'en 2014 ou 2013, je ne me souviens pas de la date du décès de M. Béliveau, Brendan Gallagher, qui est un membre de l'organisation, qui a été repêché par l'organisation, grandi dans l'organisation, ne savait pas tellement c'était qui Jean Béliveau. Alors, aujourd'hui, des fans qui ont 10 ans, 15 ans, 20, 25 ans,
qui n'ont pas connu
la Coupe Stanley 93, ils ne savent pas c'est qui Henri Richard ou Elmer Lac. Ils n'ont pas vu la Coupe de 93. Et ils n'ont pas vu le Canadien connaître beaucoup de succès dans leur vie de partisan sportif. Alors, ce public-là est très volatile.
Oui, j'ai
un gars
de 28 ans, Martin, tu as des enfants dans 20 ans. Ça m'a fait 28 ans, dans 91, dernière Coupe 93. Fait que faut peut-être... Tu sais, t'en souvenir, là, pour la peine, peut-être 33, 34, puis t'as une maudite bonne mémoire, puis t'aimais ça jeune, si tu t'en souviens, il y a 35, tu sais.
Il y a une génération, là, pour qui les Nordiques, là, si tu les prends, excusez l'expression, flat foot, là, c'est une marque de sandwich à la crème glacée, là, c'est pas d'autre chose que ça, là, je veux dire. Alors, tu sais, je veux dire, écoute, là.
Ou c'est une machine à slogan pour acheter du temps.
À moins que leurs parents les aient éduqués sur ça. Mais c'est très bon ce que tu soulèves, puis c'est pour ça que le Canadien peut pas prendre ça pour acquis, Mario. Ils peuvent pas faire à semblant qu'il y a pas de problème. Ils peuvent pas se dire, ben, ça va être bien mieux dans 2-3 ans. Ils peuvent pas, parce que cette génération-là tourne à la vitesse de l'éclair, à la vitesse où le pouce se déplace sur l'écran du téléphone et tout ça. Tu peux plus prendre ces gens-là pour acquis.
Il y a plusieurs questions. Il y a des choses intéressantes qui se passent ailleurs dans la Ligue nationale. J'aimerais ça parler du degré d'intensité qui grimpe, du degré de violence également, en tout cas d'actes très, très physiques, disons, qui se produisent sur la patinoire. Mais j'aimerais ça vous poser une question, parce que dans les choses que Marc Bergevin a dites, et je sais que ça fait quelques fois qu'il l'a dit, cette chose-là, quand on lui demande, tu crains-tu d'être congédié, vas-tu être congédié, il répond toujours que le jour où il sera congédié, là, lui, il dit, moi, je vais partir de la tête haute parce que je laisse l'organisation dans un bon état, en voulant dire, tu sais, je suis fier du travail que j'ai fait. Puis je me demandais, pensez-vous que, mettons qu'il devait laisser son poste, c'est pas ça qui va arriver, mais juste pour la conversation, à la fin de la présente saison, est-ce qu'il laisserait un meilleur héritage que celui qu'il a obtenu quand il est entré en poste en 2012?
Moi, je pense que ce qu'il laisserait, ce serait une bonne banque de choix de repêchage.
Donc, ça prendrait de la chance.
15 d'or.
Pour reprendre ses propos.
C'est ce qu'il laisserait.
Il laisse des billets de loterie.
Il laisserait à son prochain, à son successeur, la chance de se repêcher aujourd'hui, là, 14 gars au prochain repêchage. C'est ce qu'il laisserait.
Je suis moins pessimiste, parce que je pense que quand même, il y a quand même Cole Caulfield, il y a quand même, là, maintenant, Ilonen, qui est supposé qui est le meilleur patineur de l'univers connu, là.
Mais moi, je vais voir dans la Ligue nationale.
Ben, c'est ça, exact. Non,
mais parce qu'on m'a parlé de
Romanov qui est rendu
Delarose
à 5 minutes
aussi,
d'utilisation en série, en KHL.
Exact. Je veux les voir dans la Ligue nationale.
Je pense qu'il n'y a pas du négatif, mais pour revenir à ta question intégrale, non, je pense pas que Bergevin laisserait un meilleur héritage que l'administration précédente, et on sait comment ça a mal fini pour l'administration Gainé, surtout Gauthier, mais n'empêche, c'était Gallagher qui était prêt à commencer la Ligue nationale, puis Kisubun qui allait offrir ses meilleures années, Carey Price qui allait offrir ses meilleures années.
La perception était plus négative compte tenu du faux pas commis par l'organisation de nommer deux entraîneurs anglophones à ce moment-là. Ça a créé une polémique qui a vraiment assombri tout ce qui se passait au hockey. Tu sais, c'est devenu vraiment négatif. Il n'y avait pas moyen de se remettre de ça sans faire table rase, parce que je pense pas que sur papier, c'était si... Parce que tu peux pas te relever aussi vite si tu avais un club aussi mauvais, on s'entend là-dessus. Tu sais, c'est comme, à moins qu'avec les mêmes éléments, le Canadien ramasse 103 points l'an prochain, là, on va se dire, regarde, là, il y a du monde instable dans cette organisation-là.
Mais c'était pas juste une question. Oui, l'entraîneur anglophone, ça a été un faux pas qui est...
Mais ça crée un nuage, ça noircit la perception.
La dernière saison complète de Pierre Gauthier aussi, il y avait eu beaucoup de mauvaises décisions.
Camilleri en plein match,
mais quand il avait amené Tomáš Kaberle à Montréal, c'était pas une bonne décision. Que c'était
un mauvaise gestion de la blessure de Markov, là, il est un peu derrière ça aussi.
Il y avait toute la stratégie de communication, l'absence de stratégie. Il y avait beaucoup de mauvaises décisions hockey qui ont été
mises. Mais laissez-moi décliner quelques noms de l'alignement 2012. Donc, la première saison de Marc Bergevin, Pacioretty, Subban, Plekanec, Markov, Heller, Gallagher. Évidemment qu'il y a plusieurs de ces gars-là qui avaient quelques années de moins, on s'entend, là, ça fait 8 ans. Okay?
C'est l'année recrue de Gallagher. Hein,
Desharnais, Galchenyuk, Gionta, Ryder est arrivé quelque part en chemin, je pense, Brandon Prost, Raphaël Diaz, c'est pas tous des gars, il faut dire que c'est une saison écourtée, René Bourque, Yemelin, Georges, Bouillon, Eric Cole, Travis Moen, Colby Armstrong, t'avais Carey Price devant le filet, il y avait des gars comme, en tout cas, tu sais, ça a circulé, t'avais Boudaille comme deuxième gardien de but, et Philippe qui a dû nous quitter quelques instants pour aller parler en direct à notre ami Patrick Lagacé sur la programmation actuelle du 98.5. La question que je venais de poser à Martin et Simon-Olivier, puis à nous tous, c'est, suite aux déclarations que j'ai manquées dans la semaine de relâche, est-ce que Marc Bergevin, s'il devait quitter son poste cette année, laisserait une organisation en meilleure santé que celle dont il a irrité en 2012?
Je pense pas, parce que à l'époque, en 2012, le Canadien avait une fenêtre d'opportunité exceptionnelle avec des gars de très haut calibre. Max Pacioretty, là, je sais qu'aujourd'hui, c'est un peu de rigueur à Montréal que dire que Pacioretty, il fallait qu'il parte, puis
il y a une bonne saison.
Il y a une pas pire saison, puis Vegas va pas trop mal, là. Oui. Alors, attendons un peu, là, puis je reviendrai pas sur le dossier Subban-Weber, mais tu sais, bon, je bouge pas. Weber, oui, bravo. Tout le monde applaudit Weber. Il en reste pas moins que Weber est là. Une série éliminatoire depuis son arrivée avec le Canadien.
Je t'écoutais.
Et puis donc, je trouve que le Canadien avait un noyau. Puis, tu sais, Price était beaucoup plus jeune. Donc, ils avaient une opportunité. Et en 2014, ils se sont rendus en demi-finale. Et souvenons-nous, là, si Price n'est pas blessé au premier match éliminatoire contre les Rangers de New York, et ça, je te dis que tu le sais, Marc Bergevin a toujours pensé que son équipe serait rendue en finale.
Il serait allé en finale, probablement.
Alors, ça, c'était toute une équipe. Là. Puis, et là, je veux pas dire que Bergevin n'a pas de mérite parce qu'il est arrivé. Non, il a fait des bons gestes quand il est arrivé. Il a changé d'entraîneur. Right. Il a réglé le cas de Scott Gomez. Ça a l'air facile aujourd'hui, mais il fallait le régler. Il fallait racheter son contrat.
Et de Tomáš Kaberle, il a racheté deux contrats coup sur coup avant le mini.
Il a pris des bonnes décisions.
Il a attaché Carey Price à long terme. Ouais. Il a fait la même affaire avec Gallagher. Mais moi, je trouve que le Canadien vit encore aujourd'hui avec l'héritage de Bob Gainey. Puis l'héritage de Bob Gainey, c'est Gallagher et Price. Et pour moi, le Canadien respire encore grâce à ces deux-là. Et ça, c'est l'héritage de Bob Gainey.
Puis même les échanges faits à travers des éléments que tu avais, Pacioretty, Subban, c'est encore ça, ces gars-là se sont greffés à ton noyau. Ouais. Fait que effectivement, donc, il n'y a pas grand-chose de neuf, d'éléments porteurs.
Malheureusement,
non. Et je veux pas refaire le tu voulais-tu réagir à ça, Olivier? Mais par rapport au fait que, tu sais, sur l'élément chance, quoi que ce soit, c'est sûr que parce que, tu sais, je veux pas toujours revenir sur la communication, puis c'est vrai que ça en prend de la chance, mais il y a des fois que t'as pas le droit de te tromper, par exemple. Tu sais, quand t'échanges, par exemple, puis je dis pas, on a tardé à voir les éléments positifs de l'échange Drouin-Sergachev, mais ça se peut qu'il se soit trompé. Je dis pas qu'il s'est trompé, mais gardons l'esprit ouvert encore. Sur Kotkaniemi, ça se peut qu'il se soit pas trompé, mais ça se peut qu'il se soit trompé. T'sais, ça, c'est correct que tu te trompes une fois de temps en temps, mais il y a des fois qu'il faut pas que tu te trompes, parce que ça va te traîner longtemps quand tu te trompes sur ces choix-là. Là.
Troisième au total, t'as pas le droit de te tromper. Puis ça, moi, je pense que t'as tellement pas le droit de te tromper parce que le premier, c'est le premier. Là, il traîne un McDavid. Là, écoute, tu le prends, là, bon. Mais après, là, t'as pas le droit...
Même Moncton avec Pierre-Luc Dubois à la place de Paul O'Garvey.
C'est, écoute,
Hein, c'est, y aurait-tu eu l'occasion de le repêcher? Il faudrait que je revoie.
Non,
non, mais Columbus, là, le directeur général, c'est un Finlandais. Il a laissé le Finlandais de côté pour prendre le Québécois. Puis s'il n'y a pas ce Québécois-là, là, aujourd'hui, là,
Buffalo a passé par-dessus Dry Idol.
Il est dans la loterie. Mais quand je dis que t'as pas le droit de tomber au troisième, là, c'est que rendu au troisième, là, c'est merveilleux parce que tu peux y aller avec le talent, puis tu peux y aller avec tes convictions. Si les des trois, quatre joueurs qui sont là, là, de toute façon, si on écoute Marc Bergevin puis Trevor Timmons, là, les 9-10 premiers là, sont tous pas mal bons puis tout ça. Ben, c'est merveilleux parce que si dans ton classement, là, toi, le gars qui fit avec ton organisation, tes tripes, tes convictions, il est 10e, ben, prends-les le 10e. C'est ce qu'ils ont fait avec Carey Price. Quand le meilleur choix de l'organisation des dernières années, c'est Carey Price. Ils sont allés avec leurs convictions.
Moi, mais je suis pas sûr que ça mais leur conviction par rapport à Kotkaniemi sur un joueur de centre, pas sûr que c'était la bonne, là.
Ben, non, t'sais, mais je veux dire, quand
ça dépend de quoi tu te convaincs encore là. T'sais.
Non, mais quand tes convictions d'organisation, là, je vais donner l'exemple des Penguins de Pittsburgh. Les Penguins de Pittsburgh repêchent des joueurs qui ressemblent aux Penguins. Pour eux, là, un tel, il est bon, mais non, nous autres, les Pingouins, c'est plus lui. C'est ça que je veux dire, Mario. Alors, c'est pour ça que t'as encore moins le droit de te tromper.
Encore, faut que tu saches quitter, puis je sais pas s'ils savent qui ils sont.
Voilà.
Ou ce qu'ils essaient de devenir.
Un
moment donné, il faut se grossir. Un moment donné, c'est la vitesse. Un moment donné, il y a clairement une quête d'identité, là, puis les gars vieillissent pendant ce temps-là. Puis je le dis pas pour être négatif, parce que quand tu disais toi-même qu'ils ont pas l'air d'avoir les réponses à leurs questions, je comprends qu'il y a aussi, dans tout plan, une part d'improvisation. Puis d'ailleurs, dans l'improvisation du plan en cours, comme les jeunes n'affichent pas présent et rien n'indique qu'ils vont bouleverser l'univers du Canadien la saison prochaine, va falloir engager du monde, des professionnels.
Ben oui.
Va falloir signer des contrats. Fait que ça faisait-tu partie du plan? Je pense pas, mais ça va être encore le plan. Alors, le plan, c'est comme le plan Nord. À un moment donné, c'est une formule, puis c'est pour esquiver les autres affaires. Simon Olivier, je t'ai pas entendu.
Non, non, mais moi, je continue de penser que Kotkaniemi, c'est un joueur qui a besoin de temps, puis que moi, je suis un croyant dans le cas de Kotkaniemi.
J'espère que c'est pas trop grave, sa blessure, d'ailleurs.
Il est blessé à la rate.
On est maintenant à croire que c'est pas extrêmement grave, dans la mesure où il est sorti de l'hôpital rapidement. Il n'y a pas eu de chirurgie. Fait que
bonne nouvelle.
Ce matin, je parlais avec quelqu'un du Rocket qui disait qu'une des craintes, c'est qu'il puisse pas prendre l'avion à cause de son problème, et il a pu prendre l'avion pour rentrer à Montréal. Donc,
génial.
Selon moi, je serais assez surpris qu'il revienne au jeu cette saison, mais après ça, je suis pas médecin, puis même s'il revient, en tout cas, fait que ce serait pas à long terme. À très long terme, en tout cas. Ce qui est, je reviens juste un petit peu, je fais juste un petit peu en arrière. Tantôt, quand on parlait des premières années de Bergevin. Bergevin a fait des très bonnes choses à ses débuts dans la mesure où, oui, il y avait un bel héritage de l'administration Gauthier, mais il y avait aussi des mauvais contrats, des joueurs à problème. Tantôt, t'as dit le nom de Michael Ryder. Il a été très peu longtemps à Montréal, mais c'est parce que Bergevin s'est débarrassé du contrat d'Eric Cole en l'envoyant au Stars. Il y a eu Ryder, fini la saison, n'est pas revenu. Fait qu'il y a eu plusieurs bonnes décisions, mais on l'a dit, on l'a répété, ne plus savoir comment le dire. Là où l'administration Bergevin n'a pas été bonne, c'est pour repêcher et développer des joueurs. Et présentement, ce qui nous dit que c'est la pièce maîtresse de son plan, c'est le repêchage et le développement de joueurs. Alors de dire ce qui va sauver cette équipe-là, c'est ce à quoi l'équipe n'a pas été bonne depuis 8 ans, c'est là que on en vient à se dire un peu comment être optimiste ou comment dire cette fois-là, ça va être la bonne. C'est ça qui est particulier.
Moi, quand j'ouvre un livre d'histoire du Canadien de Montréal, là, OK? Qu'est-ce que je vois? Je vois des grands gardiens de but qui ont marqué l'histoire. Je vois des grands défenseurs qui ont un peu montré aux autres défenseurs des générations qui ont suivi comment jouer. Puis je vois des petits attaquants rapides, courageux et talentueux. Si c'est ça ton maudit ADN, là, ben continue, puis crois-y, puis vas-y. Arrête de perdre ton temps à tourner en rond. Si c'est ça ton ADN, vas-y. Vas-y, prends les bons.
J'aime ça parce que je vais prendre la balle au bon de cette déclaration-là, puis finir avec peut-être un regard sur l'ensemble de la Ligue nationale. Mm-hmm. Puis tu regardes des bonnes équipes dont l'ADN était le talent et la fluidité qui sont obligées de se grossir pour être capables de livrer une guerre. Je pense au Lightning de Tampa Bay contre les Bruins de Boston qui pensent sans doute à se préparer à jouer contre Washington. Les Blues de Saint Louis de la manière qu'on gagnait. T'as vu Chara qui, même s'il est capable d'être gentleman, après un incident puis texter un gars pour lui demander s'il est correct, est encore capable de donner un bon coup d'intimidateur sur la gueule de Maroon. M'a dire une affaire, vous sentez les gars l'intensité, puis trouvez les mots, le degré de violence, je veux pas non plus tomber dans le gars qui s'indigne de tout ça là, mais Vous voyez que c'est un autre hockey qui joue là pour des équipes sérieuses qui veulent aller loin. Et même quand on va être talentueux, il va nous rester des années de peaufinage pour être capable de livrer des guerres. Parce qu'on va dire une affaire,
un gars qui
on n'est pas équipé pour livrer
trouver,
des guerres.
Ben, un gars qui bûche, c'est plus facile à trouver.
Il y en a combien chez Canadiens?
Il
y en a combien chez Canadiens? Donne-moi en un efficace au hockey qui bûchait dans les huit dernières années.
Ben Chariot, il bûche fort.
Ça n'est pas pire, mais il va avoir besoin d'aide.
Non, mais oui, mais ce que je veux dire,
là, tu vas pas.
Ce que je veux dire, c'est quand tu bâtis ta fondation d'équipe, là, vas-y avec tes convictions. Puis ce que tu peux rajouter après, là, la touche de basilic ou le piment fort que tu peux mettre dans ta soupe pour la relever un peu.
Ça
là.
Prend une bonne équipe
ça,
d'abord.
Ça, c'est facile. Ça, c'est plus facile à faire. Mais si tes fondations sont pas solides, comment est-ce que tu mettras du basilic puis du piment fort? Ça va être gâché, ton affaire.
Moi, je veux revenir juste sur Kotkaniemi, là, dans la foulée de ce que tu dis, Martin. T'sais, pour moi, là, si Bergevin demeure le directeur général du Canadien, là, son avenir à lui, parce qu'un jour, j'imagine qu'il va falloir qu'il y ait des résultats, là, son avenir est lié au développement de Kotkaniemi, à mon avis.
Absolument.
Si Kotkaniemi devient pour lui ce que Doug Wickenheiser a été pour Irving Grundman, ça ne fonctionnera pas. Il ne pourra pas se relever de ça. En 2012, le Canadien a choisi au troisième rang Galchenyuk. Tu regardes après les choix, peut-être Forsberg, mais Forsberg,
ouais,
c'était
pas clair.
C'était
pas une grosse
année. Alors, tu ne peux pas vraiment en vouloir là, sur Galchenyuk, le choix de Galchenyuk. Mais c'est pas la même chose pour 2018. Quand tu regardes les choix après, là, tout de suite après, Brady Kachuk, là, déjà un impact dans la Ligue nationale. Et là, je ne parle pas du septième choix au total. Quinn Hughes avec les Canucks de Vancouver. Et puis même Zadina, il va probablement devenir bon aussi, puis tout ça. Alors, pour moi, là, si... Tu sais, tu disais tantôt, tu n'as pas le droit de te tromper avec le troisième choix. Si c'est trompé avec Kotkaniemi, ça va être, ça, il ne pourra pas survivre à ça.
Mais
quand est-ce qu'on va décider si c'est trompé ou pas? Ben moi, à mon avis, on ne pourra pas attendre 5 ans. T'sais, on ne pourra pas faire comme on fait avec Jonathan Drouin où on nous répète que c'est un jeune joueur quand il est rendu à quoi sa 5e ou 6e année dans la Ligue nationale. Jusqu'à quand est-ce que tu deviens un.
Ben, on a 25 ans, il y a 24, il va avoir 25 ans.
Je pense qu'on va qu'il se passe de quoi.
L'année avant ton autonomie complète, là. L'évaluation pour moi est supposée de compléter. Parce que là, après ça, tu le perds. Tu peux le perdre pour rien, là. Fait que...
Mais ce qui fausse la perception du jeune joueur, j'ai eu une discussion avec Danny Dubé la semaine avant de partir aux amateurs de sport, justement sur Jonathan. J'essayais de voir, c'est qui les jeunes joueurs? Bon, Jonathan, c'est un jeune, point jeune. Tu sais, t'as des gars qui sortent de la NCAA à 22 ans. Fait que, à 24 ans, t'as même pas 2 ans pro. Des fois, t'es passé par la Ligue américaine. Par contre, d'un gars qui est arrivé dans la Ligue très jeune, on a l'impression que c'est un vétéran. Mais l'affaire qu'on oublie, c'est que les organisations choisissent de développer dans la Ligue nationale dans certains cas, ce qui te donne l'impression qu'il est arrivé. Mais il y en a qui se développent pas à vitesse que tu veux, tu sais. J'ai hâte de voir Kotkaniemi, ce qu'il va donner comme performance à 23, 24 ans, là, tu sais. Mais il y a pas de garantie. Bref, mais c'est sûr que ça fait très très mal le manque de relève. Mais pour en revenir sur les autres équipes, là, les gars, j'aimerais ça parler un peu de d'autres choses. Les Flyers qui sont en feu, ça a l'air que
incroyable.
Comment se fait qu'eux autres font mieux? Columbus s'est mis dans le portrait des séries avec des matchs en main. Simon Olivier.
Ben les Flyers, c'est que moi j'aime la manière que les Flyers ont construit leur équipe pour cette année. C'est-à-dire qu'il y en a qui leur ont reproché à la date limite des transactions d'être, je crois, qu'ils ont été complètement inactifs, à part Nate Thompson. Là, mais je pense pas que c'est Nate Thompson qui a transformé radicalement leur équipe. Les Flyers ont utilisé la bonne vieille méthode de construire par la défense. Et ça a été difficile en défense, les Flyers, presque historiquement. Et là, cet été, ils ont rajouté des joueurs, des défenseurs, peut-être pas des défenseurs étoiles, mais des défenseurs fiables. Il y a eu Justin Brown, il y a eu, et là, j'ai un blanc de mémoire complet.
Le jeune Myers.
Provorov et Myers qui viennent de l'organisation.
Ouais.
Est-ce que c'est une
Le jeune Myers, oui, c'est une belle trouvaille. Hein.
Bon, je fais dur parce que j'étais pas préparé à ça, mais en tout cas, ils ont ajouté un autre défenseur vraiment pour une bouchée de pain cet été. Alors, ils ont vraiment construit une défensive solide, fiable, et ils profitent de l'éclosion de Carter Hart, qui leur donne ce qu'ils n'ont pas eu depuis 35 ans, c'est-à-dire une option fiable et à long terme devant le filet.
Il n'y a pas un gros pourcentage d'efficacité en passant. Il est à 913.
913,
c'est ailleurs que ça s'explique, parce que, tu sais, on ne calcule pas Karen une grosse année, puis... Ben, c'est peut-être de faire l'arrêt, ou ben, son club compte plus de buts qu'il en accorde. Parce que le Canadien, son différentiel est négatif, tu sais.
Mais Carter Hart, il faudrait regarder, puis là, je l'ai pas
suivi. Il y a juste 42 départs cette année.
Il faudrait regarder, c'est ça. C'est parce que Carter Hart, en début de saison, ça s'est pas bien passé. Et après ça, ça s'est replacé. Fait Carter Hart, si on regardait son pourcentage d'arrêt depuis les 20 derniers matchs, ce serait sans doute différent de celui du début de la saison. Fait ajouter à ça, une attaque qui fonctionnait. Claude Giroux, encore une bonne saison. Sean Couturier, une valeur sûre tout le temps. Voracek, une très bonne saison, plus de 50 passes.
Ils l'ont réveillé.
Ben, c'est ça, exact. Voracek, c'est une année sur deux. Fait qu'il était dû, là, tu sais.
Il avait besoin d'une nouvelle voix. C'est que la voix d'Alain Vigneault passe mieux.
Ça doit être ça. Ben, et il y a également Alain Vigneault. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde à convaincre.
Tiens, un changement d'entraîneur, ça aide une équipe. Ben, moi, je crois ça, qu'un changement d'entraîneur, ça aide une équipe aussi, parce qu'une nouvelle voix, des fois, ça devient nécessaire. Tu sais, on va souvent dire changer pour changer, non. Pas sûr, moi, que changer pour changer, c'est non. Des fois, changer pour changer, oui, ça fait du bien parce que t'as un nouveau discours, t'as une nouvelle approche, t'as un nouveau regard. Tu sais, c'est pour ça que je regarde, il y a des paquets de clubs qui font des changements d'entraîneur puis ils s'en tirent bien.
Moi, je pense que
Saint-Louis a gagné la coupe sur un changement d'entraîneur.
Ron Extall,
Pittsburgh, il y a quelques
Boston
années aussi.
Est revenu dans les équipes gagnantes avec un changement d'entraîneur. Mais je te dis pas que c'est la seule
solution. Mais avec un recrutement.
Barry Trotz et les Islanders.
Très efficace à Boston. Là.
Oui.
Très
c'est
efficace.
Sûr qu'il y avait un bon effectif. Ouais, mais regarde Columbus
aussi, Martin. Souviens-toi l'année où il y avait tous ces choix de première ronde, puis c'est pas là qu'ils ont frappé le gros lot.
Et Jake DeBrus et compagnie.
Mais
dans le cas des Flyers, je pense que Ron Extall doit être assis chez lui puis regarder ça avec un petit sourire, parce que les gars qui sont là, c'est tous des gars que Ron Extall s'est battu pour garder avec le club école dans la Ligue américaine ou dans les juniors quand il était pas prêt. Alors qu'on faisait des pressions sur lui pour les monter, pour les amener dans le grand club. Lui, il s'était battu, puis ça lui a coûté sa job. Ça lui a coûté son
job. Mais il s'est peut-être trompé avec son choix d'entraîneur à l'époque.
Peut-être, oui, parce qu'il y a un gars de collège américain, puis ça n'a pas bien fonctionné.
Tu parlais tantôt de respecter sa culture d'équipe. Oui. Lui, il n'était pas taillé sur mesure pour les Flyers de Philadelphie.
Non, il n'en voulait pas. Il n'en voulait pas de cette culture-là. Ah. Mais tabarouette, il s'est battu pour que des gars comme Sondheim et compagnie restent dans les mineurs, puis prennent un peu de millage. Puis quand ils sont arrivés, ils étaient prêts. Puis on fait des belles trouvailles. J'ai parlé du jeune Myers. Le jeune Myers, il est dans le cours du Canadien. Il joue dans la LHJMQ. Il est signé, là. Écoute, c'est pas un gars qu'on a repêché en première ronde, mais il joue, il est efficace. Puis
c'est Niskanen que je cherchais tantôt, oui. Qu'ils ont eu pour une chanson l'été passé.
Pour ça, c'est une histoire de contrat, Niskanen.
Oui, mais c'est quand même, ils ont quand même levé la main pour dire qu'ils vont nous aider, puis ils leur donnent un bon coup de main. Oui. Fait que c'est pour ça que les Flyers, je pense, connaissent ce succès-là. Et tantôt, on parlait du Lightning de Tampa Bay. Le Lightning, moi, je pense que l'année passée, ils ont été trop haut, trop vite. Ouais. Je pense que c'est ce qui les a coulés. Je pense que peut-être qu'ils auraient amélioré leur équipe autrement à la date limite des transactions en 2019 si il y en avait eu besoin, mais ça marchait tellement bien. C'est quand même une saison 62 victoires, là. Mmh. Fait que, après ça, est-ce que c'est juste une question de robustesse? Je pense que c'est la semaine passée, justement, à Tampa, que c'est Yanni Gould qui disait, l'adversité, on n'en a pas vu de la saison. Ben la première adversité qu'on a eue, c'est contre Columbus, qui était une équipe Cendrillon, qui arrivait de la porte en arrière et qui était un club conçu pour les séries.
T'as vu le match contre Boston cette semaine, Simon-Olivier?
De Tampa?
Oui.
Oui,
ça brassait pas mal.
J'ai vu le premier match contre Boston. Ils ont joué deux fois.
Le premier match a été horrible. Le coach, d'ailleurs, a été de mauvaise humeur pendant deux jours à cause de cette défaite-là.
Le deuxième match, c'est la bagarre générale. Moi, c'est pas des choses qui m'impressionnent beaucoup. Là. Je pense pas que c'est ça qui définit une équipe de hockey non plus.
C'est pas ce qu'il a défini, mais faut que tu sois capable de vivre avec ça puis pas te laisser. C'est comme, à la limite, là, c'est comme un jeune homme qu'il faut pas qu'il se laisse... changer sa trajectoire d'avenir parce qu'il se fait intimider à l'école. Tu sais, je veux dire, dans la Ligue nationale de hockey, quand tu te fais intimider, il faut que tu saches réagir parce qu'il y a des équipes qui s'écrasent devant ça. C'est clairement de un peu d'intimidation. Il y en a encore de l'intimidation. Ça, et il y a des équipes qui s'écrasent, qui fondent devant l'intimidation. Et je pense que c'est ce que Tampa essaie de faire, d'afficher présent, de dire non, on va pas céder à ça.
Surtout contre Boston,
puis d'autres clubs qui vont s'essayer.
L'enjeu du Lightning, là, c'est que certains gars de cette équipe-là soit prête à faire des jobs pas propres, puis pas le fun, puis des jobs qui rapportent pas de points. Puis ça, là, c'est vraiment l'enjeu à Tampa Bay. On est allé récemment, là, puis...
Ben, c'est ça que Philadelphie font.
J'ai allumé mes deux, trois antennes, là. Puis j'ai écouté comme il faut, là, ce qu'on dit, là. Puis ça fait quelques mois qu'on dit encore les mêmes affaires. Tu sais, là, Kucherov, là, on l'a payé vite, puis très cher comme étant un très bon marqueur. Alors, quand tu rencontres Kucherov tout seul dans le bureau, là, Kucherov, il dit, coach, écoute, moi, là, ils m'ont payé pour marquer des buts. Alors, j'en marque des buts, là, pas de problème, là. Mais ce qu'il faut convaincre Kucherov de faire, c'est que de temps en temps, faut que il ressemble un petit peu à Brad Marchand sur la glace, qui essaye d'aller bloquer un lancer, qui essaie de bloquer le bâton d'un adversaire pour qu'un autre de ses gars prenne la rondelle, prenne un petit body check dans le coin pour après ça faire une passe qui est payante. Ça, le Lightning, là, ils ont une couple de joueurs avec qui c'est un enjeu. C'est pas nécessairement de la robustesse puis donner des taloches à la gueule.
C'est un enjeu dans tous les clubs. Chez le Canadien cette année, là, on a beau dire que Claude mérite de rester là. Moi, je dis pas que c'est un mauvais coach. c'est des fois il y a des situations, mais il faut regarder. Puis là, je dis pas qu'il devait gagner la coupe cette année avec ce club-là. Puis je dis même pas qu'il devait faire les séries. Aurait-il pu faire mieux? Il y a eu un échec partiel sur le fait de pas avoir réussi à composer une équipe. Les gars, dernier mot peut-être pour conclure sur une impression finale ou sur ce qui s'en vient cette semaine pour le Canadien.
Encore une fois, je pense que pour le Canadien, ce qui va être important, c'est d'éviter la catastrophe dans les trois dernières semaines. C'est trois semaines là, qui restent au calendrier. Oui. Dans les trois dernières semaines du calendrier. C'est, ce que je veux dire par catastrophe, c'est perdre trois matchs sur quatre, puis là, il n'y a plus de morale, puis là, tu sais, ça serait pas bon. Alors, j'espère que l'équipe
aura
l'énergie.
Sauf pour la loterie.
Ouais.
Ben non, mais ça peut augmenter légèrement pour
non, mais tu regardes, t'as des clubs, je trouve déjà, là, qu'on dirait qu'ils ont, tu sais, Buffalo, là, tu sembles que, Floride, c'est compliqué.
Je peux pas croire que Détroit gagnera pas à loterie avec la saison de misère qu'ils sont en train d'avoir. Un différentiel d'à peu près moins 125, là, ça va être un record.
Moi, cette semaine, j'ai hâte de voir le succès des nouvelles combinaisons de Claude Julien qui a fait à l'entraînement ce matin. Il a séparé Gallagher de Dano et il a défait également le duo Suzuki-Armia, pour lequel ça marchait pas du tout depuis plusieurs matchs. Et je pense que si les nouvelles combinaisons pouvaient fonctionner, ça pourrait être une bonne nouvelle, non seulement pour l'équipe, mais également à l'approche du voyage en Californie qui s'en vient, parce que cette semaine, c'est deux matchs à domicile contre Nashville et contre Buffalo. Mais après ça, c'est trois matchs en Californie qui est un voyage éprouvant contre des équipes qui gagnent à domicile. Les équipes de l'Est vont se faire malmener présentement en Californie.
Les trois équipes éliminées de la Californie, c'est la première fois que je vois ça.
Exactement, trois équipes qui vont pas gagner.
Il y a des cycles, à un moment donné.
J'ai hâte de voir aussi, dans le contexte du coronavirus, qu'est-ce qui va arriver? On sait que la Californie, le tournoi de tennis d'Indian Wells, c'est en Californie, c'est annulé.
C'est une plus grosse affaire là-bas. Moi, ce que je veux voir, là, je pense, là, c'est que Claude Julien, qui a été confirmé, là, il essaie deux, trois affaires, puis je pense que les changements de trio, celui qu'on est en train d'évaluer là, c'est Max Domi. Et c'est la raison pour laquelle on le met Gallagher avec lui, parce qu'on veut savoir ce qu'il y a dans le ventre pour ce qui reste à la saison. Parce qu'après, on va prendre une décision sur lui. Puis comme c'est encore un jeune joueur, on veut pas se tromper. Mais c'est avec Gallagher qu'on va voir ce qu'il y a dans le ventre, parce que là, il fait trop de compromis. Puis s'il continue à faire des compromis à côté de Gallagher, il va avoir l'air fou.
Tu dis que Domi fait trop de compromis?
Oui.
Mais moi, j'ai toujours peur des évaluations de fin de saison, d'une saison qui veut plus rien dire. Ouais. Souviens-toi des 30 buts de Galchenyuk. Ouais. Ça sera mon mot de la fin.
Ouais. Dans la Ligue nationale, ça veut toujours dire quelque chose quand t'es là.
Faites attention à ce que, c'est ça, aux perceptions qu'on peut dégager d'une fin de saison où un gars va vouloir bien performer aussi pour avoir un meilleur contrat, puis qu'il y a bien des motivations individuelles. Un gars qu'on a eu de la misère à rallier à la cause de l'équipe quand c'était le temps de jouer en équipe. J'ai mes points d'interrogation.
Moi aussi, je suis puis je comprends très bien Martin, je te rejoins là-dessus,
oui.
Tu sais, dans la Ligue nationale, ça compte tout le temps.
Faut ça que compte
tu
trouves tout le temps.
Je suis d'accord avec ça. Mais moi, l'évaluation de la saison 2019-2020 pour moi de Max Domi, elle est complétée. Et je te rejoins là-dessus Mario.
Et je te rejoins aussi.
Mais... regarde, quand c'était le temps là, il a pas donné ce qu'il fallait qu'il donne.
Moi aussi je vous rejoins.
Bon, ben écoute,
tout le monde se rejoint. C'est
entre gars qui se rejoignent, messieurs.
On finit sur le même chemin, je suis pas merveilleux.
C'est comme un rêve.
Je vous souhaite une excellente semaine. Philippe Quentin, Martin McGuire, Simon-Olivier Lorange, à la console aujourd'hui, Mario G. Langlois, mon homonyme et collègue de travail. Ouais. Salutations, merci d'avoir été là, Mario.
Merci,
ici,
Miguel.
L'autre, Mario Langlois, qui vous dit merci et à bientôt, chers amis. Je vous retrouve aux amateurs de sport. On lit nos amis dans la presse, la Presse Plus. Et notre prochaine sortie de zone, ben, c'est vendredi. Ciao!